Eh bien bonjour, dans le Jardin des mots, nous sommes sur Fréquence Mistral et une fois de plus, c'est un bonheur que d'accueillir notre invité qui aujourd'hui est Daniel Garasimenko. Alors on redit que dans le Jardin des mots, une petite émission qui a la prétention de faire découvrir des gens, des hommes et des femmes debout, comme dit l'autre, qui travaillent sur notre beau pays et qui ont peut-être des parcours un peu atypiques et surtout font des choses assez étonnantes. Bonjour Daniel.
Bonjour Christiane.
Donc Daniel Garasimenko, il est, je vais dire, directeur honoraire. Hein, oui, on va dire ça comme ça.
On peut dire.
On va pas dire presque retraité, semi-retraité. Voilà. Et il s'occupe donc de l'Office de tourisme des Hautes-Terres de Provence.
Voilà, qui est une zone dans le département des Alpes de Haute-Provence, située en fait au nord de Sisteron. En fait, entre Sisteron au sud et le lac de Serpenson au nord. Ça comporte une vingtaine de petits villages, de petits hameaux.
Voilà, alors moi j'ai rencontré Daniel il y a 10 ans maintenant. Le oui. temps passe oui. et cela ne nous rajeunit pas, comme dit l'autre. J'ai rencontré Daniel dans un cadre un petit peu particulier. Je commençais dans ce département à travailler autour du conte et de l'oralité et j'ai été invitée dans ce pays de la Motte du Caire par quelqu'un qui voulait me présenter quelque chose. Donc je suis allée, j'ai pris ma petite voiture, arrivée là-bas, il faisait très très froid, c'était au mois de février. Et je suis montée dans un véhicule dont, vous savez moi, la niçoise, je n'avais jamais vu ça encore, avec des gros clous qui sortaient des roues. Est-ce que tu t'en rappelles, Daniel ?
Je me rappelle qu'effectivement, c'était en hiver. Un gros véhicule, j'ai jamais eu de Jeep soviétique, mais c'était certainement un 4x4 parce que les routes étaient verglacées et sans doute avec des pneus cloutés.
Tout à fait. Et donc, nous sommes montés vers Nibles, si ma mémoire est bonne. Et là, j'ai vu un rocher énorme, un rocher en résine. Enfin, j'ai appris après tout ça, hein. Et puis, comme par magie, Daniel a posé un truc sur le rocher et le rocher s'est mis à parler.
Exactement.
Alors, voilà, c'était quoi cette histoire ?
Cette histoire des rochers qui parlent, en fait, c'est un projet que nous avons développé et dans les années 2007-2008, qui consistait en fait à permettre une itinérance aux touristes dans ce territoire de ces 20 villages du pays de la Motte-Turier, que l'on appelle donc les Hautes Terres de Provence. Et autour de ce thème du conte, en fait, on permet aux touristes d'aller de ce rocher qui parle en rocher qui parle au gré des villages pour écouter des conteurs. Et puis, c'est cela que tu étais venu découvrir ce jour-là.
Ouais, c'était rigolo parce qu'au départ, c'était un travail qui avait été fait pour faire connaître l'histoire du pays. Et je me rappelle que tu disais un pays où il y a rien, hein, on
tout
va pas
fait.
Dire où les corbeaux volent sur le dos, mais c'était quand même
malheureux,
pas très loin.
Oui, tout à fait.
Et vous aviez travaillé avec alors ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse dans le Jardin des mots, c'est comment naît une idée comme ça? Parce que quand même, travailler avec un illustrateur de bande dessinée, travailler sur l'histoire du pays, fabriquer des rochers, mais c'est un rocher qui a grandeur d'homme quand même. Hein.
Oui, tout à
Alors,
fait. Oui.
Comment une telle idée naît comme ça? Quels sont les budgets? Parce que c'est quand même pas tout à fait anodin.
En fait, c'est parti d'un premier constat qui était que nous n'avions rien sur ce territoire de particulier à proposer aux touristes. Et donc, nous avions étudié pendant quelques années, on avait fait une espèce d'inventaire du patrimoine historique et on s'est rendu compte que tout ce qui existait en matière de bâti, c'était nul. On n'avait pas de citadelle de Sisteron à proximité, ni de château médiéval de Tallard. Mais par contre, nous avions quelques mémoires retranscrites dans les documents anciens. Et c'est cela qu'on a décidé de mettre en musique avec ces itinéraires des rochers qui parlent. Alors, on a eu recours à un dessinateur de bande dessinée qui s'appelait Michel Crespin, qui avait eu donc pour cela une résidence d'écrivain. Et donc, pendant la durée de sa résidence d'écrivain, il nous a aidés à créer ce projet à partir de sa plume et de son dessin, de ses aquarelles. C'est lui qui a donné un peu donné le corps artistique à cet itinéraire.
Tout à fait. Et donc, on a eu... Alors, comment vous avez travaillé? Vous n'avez pas travaillé tout seul. Lui, il faisait sa résidence. Je suppose qu'il y avait, autour de lui des gens qui lui parlaient de ce pays.
Voilà. Donc, on a d'abord récupéré de la part de médiévistes, d'historiens, de la matière, disons, sur l'histoire de ce petit territoire, qui est en fait un territoire qui est confiné dans le coude de la Durance et qui a traversé les millénaires pratiquement en autarcie. Et donc qui s'est comporté au fil des siècles comme finalement une seule et même grande ferme qui vivait en autarcie, parce que finalement on se rend compte que chacun trouvait compagne ou compagnon en faisant les 4 kilomètres qui le séparaient du village voisin. Et donc, au gré de toutes ces rencontres, on a pu s'apercevoir que tout le monde était parent, de façon légitime ou pas d'ailleurs, et ou reconnu ou pas. Et c'est cette espèce de vie en communauté que l'on a décidé de creuser. Et on a trouvé de la matière avec des historiens, des médiévistes. Et puis on les a donnés à Michel Crespin, et qui a commencé donc à créer des histoires autour de la période médiévale, puisque finalement c'était la seule période sur laquelle on avait pu trouver suffisamment de matière. Et qui était celle un peu qui intéressait le plus les touristes. Et donc Michel s'est mis en quête de créer des itinéraires. Alors, un sur la sorcellerie, un sur les contes médiévaux, un sur la peste, sur les croisades, sur
les loups.
Sur les loups, sur les. Oui, tout à fait. Et donc sur les pèlerinages. Et donc voilà, donc on a imaginé un peu en parallèle ce qu'on pouvait faire avec cette matière historique et son coup de plume.
Tout à fait. Mais l'itinéraire lui-même, parce que bon, pour m'être quand même pas mal promené par là-bas, ces rochers sont placés parfois dans des endroits invraisemblables, je veux dire.
Ah, ils donc sont ça... dans les endroits les plus insolites possibles. En fait, grâce à ce projet. On a cherché à amener le touriste ou la personne intéressée par cette découverte dans des endroits dans lesquels il ne serait jamais allé s'il n'avait pas eu l'excuse de cette itinérance qui lui était proposée avec ces rochers qui parlent. Donc c'est la découverte d'un vieux pont médiéval qui est absolument inconnu de tous. C'est la découverte d'un panorama somptueux au niveau d'un sommet inaccessible. C'est la découverte d'une place. Voilà. Donc en fait, on a cherché le plus possible, village par village, à trouver des endroits les plus, je dirais, au passé le plus prestigieux possible. Mais de manière à laisser le touriste ou la personne qui vit cette itinérance, à lui laisser la possibilité de vivre comme s'il vivait lui-même l'aventure de ses héros à la période même à laquelle il vivait, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Donc on a évité le plus possible de les faire se retrouver dans un contexte du XXe ou maintenant du XXIe siècle, quoi.
Ce qui m'avait frappé, moi, à l'époque, parce qu'après, on va balayer un petit peu l'histoire jusqu'à aujourd'hui, hein, mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que j'ai eu l'impression de rentrer dans un livre dont vous êtes le héros.
C'est tout à fait.
Quelque ouais. chose comme ça, hein, ces livres qui ont fait le bonheur de nos jeunes, en fait, il y a quelques années.
Voilà, tout à fait. En fait, le livre reproduit un peu une aventure et dans que le touriste va, à laquelle le touriste va adhérer. Et il va suivre l'itinéraire complet sur le terrain que suivent les héros eux-mêmes. Et donc, pour cela, il faut résoudre des énigmes. Un peu, c'est le principe un peu du jeu de piste. Et grâce à des indices gravés qui sont sur l'itinéraire, grâce à des énigmes que le touriste va devoir résoudre, il va aller de village en village avec son véhicule. Hein. Et donc, il se déplace d'un village à l'autre. Et puis, arrivé dans un village, il va falloir qu'il parte à la découverte de ce rocher qui parle, qui va lui livrer l'épisode qui va suivre donc, de cette aventure qu'il va suivre du début jusqu'à la fin.
Alors, moi, je suis un peu énervée, là, quand même. Hein. Je vais vous le dire tout de suite, parce que ça fait au moins trois fois que tu dis les touristes. Et en même temps, je suis sûre que ça n'est pas que pour les touristes.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Parce que je ne suis pas touriste.
Non, c'est parce que
je n'ai
pas encore trouvé le mot qui décrit les autres personnes susceptibles d'être intéressées par ce genre d'itinéraire. En fait, c'est un public en fait, particulier qui suit ces itinéraires et qui s'intéresse à ces itinéraires et qui sont, pour ceux qui le parcourent, qui sont absolument passionnés et qui en retirent une expérience un peu inoubliable. D'ailleurs, pour certains, lorsqu'ils en ont la possibilité, ils parcourent plusieurs aventures différentes, puisqu'il y en a une dizaine différentes. Mais c'est vrai que c'est un public particulier. Alors, je disais touriste, c'est vrai que ce n'est pas le terme le plus approprié, mais c'est plutôt, on va dire, les personnes qui sont susceptibles de bien se trouver dans pleine nature, un peu on leur lâche la main, ce qui est un peu contraire à la tendance actuelle où on est le plus possible pris en charge. Là, c'est un peu la personne qui se prend en charge avec souvent des enfants qui participent. Et donc, c'est une façon de partir en lâchant prise, en abandonnant un peu toutes les machines, d'autant plus qu'on est dans un territoire où le téléphone portable a du mal à circuler, à passer. Donc c'est une façon de lâcher prise par rapport à la société actuelle. Et c'est vrai que bon, ça correspond à une tranche bien particulière de personnes.
Bah, il faut à la fois aimer la nature, hein, aimer ces découvertes-là, marcher un petit peu quand même, hein,
marcher
parce que
un petit peu,
c'est pas tout à fait.
Oui.
S'intéresser à l'histoire et à l'histoire locale, et puis être curieux, être joueur, je crois, avoir gardé son âme d'enfant.
Tout à fait, exact. Garder cette âme d'enfant et puis surtout ouvrir les yeux et puis parce que en fait, ces itinéraires sont parfois l'objet de permettre de rencontrer des personnages un peu remarquables du territoire au gré des promenades ou des visites dans les villages, parfois parce qu'il arrive parfois qu'on se perde ou qu'on ne trouve pas le rocher. Et on est bien content de rencontrer quelqu'un qui va nous dire où se trouve le rocher suivant. Et c'est l'occasion parfois de rencontrer des personnes qui vivent là depuis un certain temps et qui ont parfois énormément de choses à raconter, qui sont d'une richesse intérieure remarquable.
Tout à fait. Alors, moi, vous savez que cette émission-là, on va en gratter un petit peu derrière le personnage hein, pour voir qui il est. Aïe, dit-il. Aïe. Alors, Daniel, comment vous êtes arrivé dans ce travail-là et dans ce désir-là? Bon, je sais par indiscrétion diverses et variées, tout plein de choses que vous avez fait, des projets qui ont été montés, etc. Mais comment, quel est votre itinéraire, en fait, et vos passions?
Alors, c'est vrai que c'est une histoire. Bon, c'est une histoire qui démarre avec d'abord une vie d'adolescent qui apprenait la musique. J'étais musicien d'abord. Après être musicien de conservatoire, j'ai mené des études d'électronique. Je suis devenu ingénieur électronicien. Donc j'ai eu une première vie de musicien, une deuxième vie d'électronicien parce que j'avais monté une boîte d'électronique que j'ai abandonnée au bout d'un certain nombre d'années. Et ma troisième vie s'est retrouvée avec ma compagne, qui était ma femme, qui est donc autour d'un village dans les Alpes de Haute-Provence, isolé dans une vieille bergerie médiévale. Là. Et puis nous avons décidé une troisième existence qui était accès pour elle dans la collectivité locale et puis pour moi autour du tourisme. Je me suis donc découvert une passion pour l'aménagement du territoire dans le secteur touristique. C'était pour éviter d'avoir uniquement qu'à couper du bois et faire des mots croisés, quoi, puisqu'à l'époque, le sudoku n'existait pas. Quoi.
Ah, et maintenant, c'est le sudoku. Bon, d'accord. On écoute un peu de musique parce que je crois savoir qu'un certain monsieur Léo a l'honneur.
Oui, on l'écoute volontiers, le malheureux.
Où est passée cette chanson qui traînait dans toutes les guitares? Avec ses rimes et ses raisons qui nous faisaient veiller si tard. Un air accompagnait des paroles émues, un air qui semblait toujours monter de la rue. Des mots, toujours des mots de rien, qui font du bien lorsque revient cette chanson comme une sève, avec ses chanteurs de rue et ses histoires. Cette chanson comme une fleur, une fleur fanée, perdue dans la mémoire. Note à fredonner pour parler du passé. Comme la mer en remontant, comme le sable de la plage, comme la pluie après le vent, mais tout en larmes ce nuage. Comme la vie en effeuillant la fleur de l'âge, sans faire de bruit va grisonnant ton beau visage. Jamais rien ne vaut rien, tout se défait et tout se tient lorsque revient cette chanson comme un chaland qui remontait du phonon à manivelle. Cette chanson comme un passant qui passait au ciel nouveau des hirondelles. Passer cette chanson qui traînait dans toutes les fêtes, avec sa mine d'accordéon qui nous faisait tourner la tête. La lune s'accoudait derrière des musiciens, par une nuit d'été, par une nuit de rien. Et la mer se traînait et les cigales allaient danser. Chanson comme un regret dans un serment qui s'exhale et qui nous blesse. Cette chanson comme un follet dans le feu perdu du mal de la jeunesse. Simplement
Eh bien, merci aux malheureux quand même, hein, parce que c'est comme ça qu'il vient d'être appelé par notre invité. Notre invité, puisque nous recevons aujourd'hui Daniel Gerasimenko, qui travaille encore à l'Office de tourisme des Hautes-Terres de Provence. Et nous parlions plus particulièrement de cette extraordinaire invention que sont les rochers qui parlent et le sentier des contes. Donc, après avoir écouté ce malheureux, je me permettrai de dire quand même que le mode de vie que M. Gerasimenko a choisi, dont il nous a dit trois petits mots, hein, vivre dans une ancienne bergerie, etc., est quand même à la fois très particulier, mais extrêmement fabuleux, je dirais, non ?
Disons que enfin,
déjà, excusez-moi, mais ça se mérite, parce qu'il y a je ne sais combien de kilomètres de pistes où la voiture risque de mourir à chaque virage. Non. Mais quand on arrive, c'est magnifique.
Oui, non, c'est un lieu qui est très propice, effectivement, pour pouvoir apprécier la nature, mais il n'y a que 2 km de mauvaises pistes, on va dire. Non, c'est bien. Non, c'est surtout parce qu'on s'y trouve bien, qu'on y vit, des instants où on s'y trouve bien et on s'adapte aux conditions.
Non, mais c'est vrai que ce mode de vie, je dirais, a dû être très, très présent et moteur pour la création de ces itinéraires, parce que ça prouve à la fois une très, très belle et très bonne connaissance du pays, hein, et puis un amour fort pour la faune, la flore, oui, l'histoire du pays.
Quelque part, le fait de nous permettre finalement de vivre à cet endroit que l'on trouve, c'est vrai, très agréable et très harmonieux, c'est comme si l'on avait acquis une dette envers les gens de ce territoire, une dette, et que l'on se doit de rembourser. Et en fait, on s'en acquitte en donnant à ce territoire un peu des idées, une certaine forme de développement, d'énergie qu'on essaye de restituer pour remercier finalement ce territoire de nous avoir accueillis parmi eux, quoi.
Parce que bon, il y a effectivement ce sentier des contes, hein, avec l'histoire du pays, voilà. Et puis il y a toute une collecte qui a été faite autour des anciens, avec les anciens, qui a donné naissance à trois petits bouquins, si ma mémoire est bonne. Alors ça aussi, ça relève d'un désir fou de partage et de rencontre quand même.
Oui, c'est le plaisir de la rencontre et puis surtout le devoir, je dirais presque le devoir de laisser une trace de la manière dont vivaient les gens il y a une cinquantaine d'années ou plus, qui ont façonné ce territoire. Parce que toutes les générations qui arrivent sur ce territoire ne vont pas obligatoirement vers la connaissance de ce mode d'existence, qui était un mode d'existence qui était difficile, parce que les conditions sont rudes, l'environnement est assez austère, hein, donc les conditions de vie, il n'y a pas beaucoup de plaines, il n'y a pas beaucoup de terrain plat, il faut sans arrêt monter et descendre dans ce territoire. Et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de gros pâturages, donc il n'y avait que des petits troupeaux, il n'y avait que des fermes isolées, que des gens qui vivaient avec pratiquement rien, s'accommoder du froid facilement, parce que tous les gens qu'on rencontrait de ces générations-là, ils étaient habitués à passer l'hiver avec des 0 degrés dans leur chambre, hein, donc, et ils s'en portaient tous très bien. Et d'ailleurs, la plupart de ces gens que j'ai pu rencontrer pendant 2 ans qu'a duré ce projet de collecte, ce sont tous des gens qui regrettaient cette époque, même si les conditions étaient particulièrement dures et pénibles, et certainement très éloignées de ce qu'on peut trouver maintenant.
Alors, si on revient un petit peu sur ce projet, qui était un projet qui a été aidé, je crois, par l'Europe, qui était au titre du franco-italien ou pas ?
Oui, c'était l'Europe, c'était franco-italien, et c'était aussi grâce à la médiathèque, il ne faut pas l'oublier. C'est un projet qui allait pour collecter des témoignages et qui, au départ, n'était pas destiné à être transcrit dans des bouquins, mais on a trouvé ces histoires suffisamment originales, passionnantes et remarquables, d'autant plus qu'elles étaient doublées la plupart du temps par des témoignages en patois local. ça nous semblait qui également, lui, est en train de disparaître, puisque pratiquement plus personne ne le pratique. Et donc, pour nous, voilà, c'était rendre mémoire à toutes ces générations qui ont bâti et construit ce pays. Pour nous, c'est vrai que c'est un combat permanent que de voir ce respect aux anciens.
C'est un devoir de mémoire, donc, hein, avec un joli travail. Moi, j'aimerais parler un petit peu des collaborateurs de Daniel Garasimenko dans ces activités-là.
Elles sont indispensables. Ce sont pour la plupart que des jeunes femmes et qui sont effectivement dévouées à la même cause de promotion d'un territoire. Alors pour certaines, donc, avec des missions plus particulièrement axées sur le patrimoine, hein, sur les projets, sur l'ingénierie. C'est le cas de Karine. Il y a une directrice qui s'appelle Florence et qui donc elle gère elle gère toute l'équipe. Il y a donc Sophie qui s'occupe elle d'autres projets comme les Collégiens du Monde qui consistent à accueillir des séjours un peu clés en main, à élaborer des séjours clés en main d'enfants qui viennent du monde entier, depuis la Chine ou l'Amérique centrale, ou d'Europe, bien entendu, et on leur aménage des séjours un peu clés en main de découverte du territoire et surtout de rencontres avec des jeunes Français pour partager des expériences pédagogiques et culturelles ensemble.
Alors, il y a le sport, il y a la culture, mais c'est quelque chose qui est tout plein.
On essaye de balayer tous les aspects. Nous avons également Fanny qui maintenant est rentrée dans l'équipe. Et puis nous avons également Pierre qui s'occupe de tout ce qui est sentier de randonnée. Et nous avons une présidente qui s'appelle Marc Linares, qui est un accompagnateur en moyenne montagne, qui là depuis 2 ans, après la succession de Jean-Marie Colombon, qui est resté le président de l'Office de tourisme pendant ses 20 premières années.
Eh bien, voilà bien des choses. Il y a encore plein de projets, je présume, hein, quand même.
Ah, mais il y en a en permanence. Là, par exemple, on n'a pas parlé pour le moment d'un deuxième aspect de ces rochers qui parlent, qui est parti d'une rencontre originale avec ce projet fabuleux qu'a mis en place la médiathèque, qui était donc la rencontre de
la parole.
Les rencontres de la parole. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer, on avait une petite frustration au niveau des rochers qui parlent, c'était que les textes n'étaient pas racontés, on va dire, par des conteurs, n'étaient pas exprimés par des conteurs.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, lors de nos premières rencontres, à l'écoute de ces rochers qui parlent, justement, l'histoire était belle, l'histoire est toujours belle, mais effectivement, il manquait la vie, l'âme que peut donner un conteur à ce rocher. Peut-être, Daniel, que l'on pourrait écouter la voix de Daniel Laumont, c'est un autre Daniel encore.
C'est lui qui a tout déclenché.
Alors, vous imaginez, on arrive au sommet de je ne sais quelle montagne. On pose un petit stricle sur le rocher. Et là, écoutez bien ce qui se passe.
L'être et l'avoir par Daniel Laumont.
Ils sont sur le pont, mais ils ne regardent pas passer l'eau de la Dordogne. Ils discutent profondément, semble-t-il, deux hommes, deux amis, avec chacun une pierre dans la main, une belle pierre comme une pomme. Regarde, fait l'un, si cette pierre, c'est l'avoir, et si cette pierre, la tienne, c'est l'être, tu conviendras bien qu'il faut les deux pour avancer dans la vie, l'être et l'avoir. Oui, répond l'autre, mais si l'avoir prend le pas sur l'être, c'est foutu. D'accord, alors on va poser l'avoir ici. Et il place sa pierre sur le parapet. Maintenant, place l'être dessus. L'être est supérieur à l'avoir. Mais si l'avoir ne tient pas, s'il n'est pas assez solide, l'être se casse la figure. C'est vrai, répond son ami, mais faisons l'inverse. Et il place la pierre être sur le parapet et la pierre avoir dessus. C'est l'être qui tient l'avoir. Et si l'avoir tombe, il reste l'être. Oui, mais sans avoir, oh, c'est compliqué, disent-ils ensemble. Et à ce moment-là, une maladresse, on ne sait qui, l'un ou l'autre, ou les deux, une maladresse et les deux pierres tombent du pont vers la Dordogne. Manque de chance, un pêcheur, avec sa barque, passe en dessous, et il reçoit une pierre sur l'épaule. Il crie « Oh, là-haut, attention !» Aucun des deux amis n'a osé demander si c'était l'être ou la voir qui avait fait mal. Ils se sont excusés en même temps en criant « Pardon, on est maladroit, mais on ne vous visait pas, quoi. Hein. » Et puis, à voix basse, l'un a fait à l'autre « Demain, on continuera la discussion, ici, là, sur le pont, au même endroit, mais on prendra une feuille de tilleul et une feuille de châtaignier. Il faut savoir discuter léger des choses lourdes. »
Grémond, le renard. Daniel.
Merci. C'était effectivement la différence entre une voix, je dirais une voix journalistique, hein, une voix qui explique, une voix qui pose des questions, et ces contes qui ont été mis par la suite dans les rochers. Puisque rencontre dans les rencontres de la parole, un certain nombre de conteurs ont eu la chance de découvrir Daniel, certes, Karine, mais surtout de participer et de donner chacun un petit conte qui a été mis dans les rochers. Mais tout ça, c'est né grâce à Daniel Laumont. Et je crois que c'est une rencontre qui a été très belle pour Daniel et
déterminante parce que tout d'abord, nous avions demandé à Daniel Laumont, que nous avions rencontré lors d'une rencontre de la parole organisée par la médiathèque, on l'avait rencontré et on lui avait demandé s'il acceptait de prêter sa voix pour réenregistrer les contes des rochers qui parlent, donc de l'aventure du Sentier des Contes. Il avait bien entendu acquiescé volontiers, et d'ailleurs il nous a réenregistré les deux premières aventures que je conseille tout le monde de découvrir parce qu'elles sont absolument extraordinaires. Mais par ailleurs, il nous a dit « Mais moi, c'est bien beau que tu mettes ma voix dans tes rochers, mais tant qu'à faire, je préférerais que les personnes qui écoutent ce rocher entendent mes contes à moi personnels. » Et de là est partie une idée nouvelle qui consistait à dire « Mais pourquoi pas, à ce moment-là, faire un itinéraire avec les mêmes rochers qui sont disséminés dans la nature, mais plutôt que de suivre une espèce de jeu de piste inspiré de la mémoire médiévale du pays ?» Même si c'est sur le ton de la voix merveilleuse de Daniel Laumont, mais pourquoi pas écouter des productions personnelles de conteurs, de tous ces conteurs qui participent aux rencontres de la parole. Et à partir de là, donc, s'est créé un deuxième concept qui s'appelle donc Haute Parole, où là, toute personne qui aime les contes et la nature peut aller en pleine nature, écouter à longueur d'année des voix qui passent donc dans le département, dans ces rencontres de la parole qui ont lieu fin août en général, mais qui ne restent qu'une semaine sur le département, et bien là, c'est l'opportunité que l'on a d'entendre ces voix à longueur de temps, n'importe quel moment de l'année, dans ces rochers, en pleine nature, pour perpétuer ce souvenir extraordinaire de ces rencontres remarquables.
C'est comme ça qu'on entend l'oiseau tonnerre de Robert Seven Cruz, ouais. Qu'on entend des contes de tous les pays, d'Afrique, etc.
Oui, oui. Même de Cuba, oui, tout à fait. De toutes les possibilités francophones du monde entier. Et je dois dire que là, on constitue un peu au gré des rencontres de la parole, d'année en année, je dirais un capital de contes. Une banque de contes et dans lesquels on vient piocher chaque année pour saupoudrer dans nos rochers qui parlent, pour donner l'occasion à tous ceux qui parcourent cet itinéraire de re-entendre ces personnes remarquables qui ont pu participer aux rencontres de la parole.
Alors tout ça dans le respect absolu des droits d'auteur, et Dieu sait que cela nous a compliqué la vie.
C'est vrai. Il a fallu résoudre quelques petits problèmes administratifs.
Et je sais qu'un des itinéraires est accessible aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en difficulté.
C'est exact. Une aventure du Sentier des Contes est réservée aux... Disons qu'il y a un certain nombre de rochers qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et donc, pour l'un ou pour l'autre, donc il y a soit une aventure des rochers qui parlent, qui leur est destinée, soit effectivement ces mêmes rochers, bien entendu, disposent et peuvent proposer également un conte un conte qui change chaque année au gré de notre piochage, si j'ose m'exprimer ainsi.
Mais alors techniquement, c'est quand même un peu compliqué tout ça, parce qu'on ne voit pas un fil, on ne voit pas un câble, on ne voit rien que le rocher en fait.
Oui, c'est vrai que ça, c'est un peu le fruit, ou du moins ce qui pouvait rester de la vie précédente d'ingénieur électronicien, qui nous a fait concevoir ce système qui, en fait, ne fonctionne uniquement avec de l'énergie solaire. Et donc, et un badge, qui est le badge maintenant, qui est couramment utilisé pour passer votre péage d'autoroute. Ben voilà, disons qu'on était un peu précurseur pour l'appliquer à ces rochers qui parlent.
Oui, sachant que suivant le badge que l'on a, on n'entend pas les mêmes histoires.
Absolument.
Bien évidemment.
Voilà. Donc il y a 9 badges différents pour les 9 aventures du Sentier des Contes. Et puis il y a un badge autre parole, là, qui permet d'accéder aux 20 rochers qui sont disséminés sur le territoire et qui contiennent donc 20 histoires différentes de conteurs francophones, donc qu'ils soient des Amérindiens, Africains, Français du Nord-Est ou du Sud-Ouest.
Et moi, je reviendrai volontiers sur la façon dont les rochers ont été mis en place, parce que je suppose que tout le monde n'a pas été ravi de voir apparaître comme ça un gros rocher en résine planté à tel ou tel endroit. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu des aides?
À vrai dire, les rochers, on a profité d'une opportunité d'un gars qui était sur le territoire, qui encadrait des jeunes asociaux qui effectuaient des peines de... Bon, c'est pas des peines de prison, mais c'est... Qui étaient affectés à des travaux, disons, d'intérêt général. Et à partir de là, lui-même étant le coordonnateur, étant lui-même un spécialiste de la résine, s'est proposé de faire des rochers, des reproductions de rochers à ces jeunes pour leur donner un peu un sens à leur séjour, non pas carcéral, mais campagnard. Et ils s'y sont bien pliés. Et c'est comme cela qu'en fait, à relativement moindre coût, tous ces rochers ont pu être fabriqués. Maintenant, gênés sur le territoire, en fait, il y a peu de rochers qui ont été vandalisés par l'habitant. Il y en a même qui ont failli être... récupérer, je me rappelle toujours lors d'une émission de télé, une habitante qui était interviewée, une habitante de Sigoyer, un de nos petits villages, dans 04, qui avouait au commentateur de la télévision qu'il interviewait, et qu'elle avait été tentée de demander à son mari de récupérer avec le tractopelle ce rocher pour le mettre devant chez elle, tellement elle pensait que ce rocher était vrai, quoi. Et donc, non, en fait, ils n'ont pas trop gêné dans le paysage, sauf à un endroit qu'il a fallu déloger parce qu'il faisait mauvais ménage avec les gens qui fréquentaient un lieu.
D'accord. Donc, ce ne sont quasiment que des bons souvenirs, cette
que des bons souvenirs. Que des bons souvenirs. Et en général, des témoignages de satisfaction très souvent satisfaisants.
Alors, moi, j'ai quand même une question. Il y a toute une bibliothèque sonore qui s'est mise
en place.
Voilà,
une banque
avec,
de données, oui.
Avec tout ça, qui certes concerne les comptes, mais concerne aussi tous les entretiens de collecte que vous avez faits.
Absolument.
Est-ce que vous imaginez, est-ce qu'il y a un avenir à ces archives-là? Comment est-ce que dans votre idée, ça peut évoluer?
Mais disons qu'on avait proposé déjà de donner ces archives d'abord à la médiathèque et puis également à Salagon, au musée de Salagon, qui thésaurise un peu toutes ces données. Maintenant, c'est vrai que le but à atteindre était avant tout de faire connaître un peu ce mode d'existence à partir de témoins, et parmi ces témoins on en a interviewé à peu près une cinquantaine, dont on a gardé une trentaine de témoignages. Et déjà, sur ces 30 témoignages que l'on a conservés, il y en a déjà presque la moitié qui ont disparu en 2-3 ans, quoi. Donc, c'est une mémoire précieuse là, qui disparaît. Et surtout que toutes ces personnes-là qui témoignaient d'une époque complètement révolue, puisque c'était l'époque pré-industrielle, ces gens-là ne sont plus là pour témoigner, et donc c'est une grosse richesse qui est perdue là, de jour en jour.
Il y avait beaucoup de personnes qui venaient d'Italie pour travailler. Il y a un espace transfrontalier là dans l'histoire.
Oui, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient avec les Italiens. Les Italiens travaillaient surtout dans la forêt. C'était souvent des exploitants forestiers, des bûcherons. Mais pas seulement. On a trouvé justement à travers des témoignages des Italiens qui travaillaient, qui étaient étameurs, hein, qui donc passaient de village en village pour réétamer les outils, les casseroles ou parfois les toitures pour les rendre étanches. Donc avec tous les vis que pouvaient comporter ces métiers-là pour faire durer le plaisir. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été un véritable enrichissement que d'entendre tous ces témoignages sur ce temps passé, quoi.
Alors, si on se mettait à rêver, puisque vous-même, vous avez fait de la collecte, puisque vous-même, vous avez organisé une résidence
d'écrivain,
puisque, voilà, pourquoi Daniel Gerasimenko & Co, aujourd'hui, n'inventerait pas une maison de la collecte, maison de je ne sais quoi,
on remit un couteau dans la plaie. On avait eu, c'est vrai que quand on accumule toutes ces données, on pense inévitablement à les mettre à disposition du public pour que ce public puisse en profiter et complètement et toute l'année. Et pour cela, on avait imaginé un projet qu'on appelait Maison de la Parole. Cette maison de la parole, on lui avait trouvé un lieu grâce à l'aimable coopération de son châtelain qui mettait à disposition le château, la ruine du château de Sigoyer, Sigoyer-Malpoil. Donc c'est le Sigoyer-Malpoil, c'est le village qui se trouve entre Sisteron et la Motte du Caire. Et donc on avait un beau projet auquel on croyait beaucoup, qui consistait à créer cette maison de la parole. On était en relation avec tout le réseau du conte en France. Là, on avait tissé d'excellentes relations. Et puis, le hasard des projets font que parfois certains n'aboutissent pas. Et celui-là n'a fait qu'être ébauché. Il n'a pas pu arriver à son terme. Mais on ne désespère pas. Pourquoi pas un jour lui donner une seconde vie.
Mais dans vos yeux et votre voix, j'entends bien que tout n'est pas dit sur le sujet.
Tout n'est pas perdu tant qu'on est vivant.
Tout n'est pas perdu. Alors, juste revenir sur l'un de ces sentiers qui était quand même sur plusieurs jours, sur deux ou trois jours, je crois.
Oui.
Et on dormait en gîte, etc. Donc, vous disiez hors antenne que les gens ne font plus de grandes randonnées et qu'on se limite plutôt à des randonnées panachées, voitures et piétonniers, rando.
Oui, c'est plutôt des boucles maintenant. La fréquentation touristique veut que... bien sûr, il y a les clubs de randonnée traditionnels qui, eux, continuent à faire des grandes randos à la journée. Mais c'est vrai que le grand public, ceux qui fréquentent, je dirais, les campings, les gîtes, pendant la saison touristique, ce public-là ne part plus que pour quelques heures, 2-3 heures sur une boucle, et il faut le satisfaire sur ce thème-là. Ce n'est pas la même demande que les clubs de randonnée qui vont chercher à atteindre les sommets et qui sont prêts à passer une nuit dans des conditions les plus spartiates possibles en montagne. Donc on avait effectivement un itinéraire des rochers qui parlent et qui était sur le thème du pèlerinage. Et
on y parlait beaucoup de loups quand
on
même,
y parlait
de mémoire,
beaucoup de
hein.
loups. On y parlait beaucoup de loups. C'était un peu précurseur parce qu'en fait maintenant les loups sont sur ce territoire aux grandes dames des bergers, des éleveurs, et qui effectivement les loups créent de nombreux problèmes à ce sujet. Donc il y a une incompatibilité d'humeur entre les deux espèces. Mais disons que cette aventure là se faisait sur 3 jours et ça permettait de dormir dans des gîtes, je dirais pas spartiates, mais disons des gîtes éloignés en forêt. Notamment, je pense à celui de Thierry Fada, qui était dans le petit village, dans le petit hameau de Baudinard, qui est un très joli hameau au pied du lac d'Esparon-la-Bâtie, au niveau du Pic des Monges. et qui donnait l'occasion de faire une halte, une pause sur les 3 jours de randonnée que donnait cet itinéraire, où il fallait quand même marcher 8 heures par jour. Quoi.
Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je l'ai fait et c'est vrai que c'est un merveilleux souvenir quand même. Hein.
Voilà.
Donc je ne peux que regretter l'abandon de ce,
bon, on de va ce, des jambes
de ce sentier-là. C'est, oui, vrai, c'est vrai que... bon. C'est vrai. C'est un voyage que vous nous proposez. Ce sont des voyages assez magiques. Hein. Et je reviendrai une fois encore sur mon dada, c'est-à-dire, oui. Et les gens d'ici, alors, pourquoi, comment vous les touchez? Est-ce qu'ils viennent quand même? Est-ce que vous, on parlait des rencontres à parole et on parle donc de bibliothèque. Il n'y a pas eu d'expérience avec des gens d'ici, je veux dire, en petits groupes, en...
Mais disons que ça fait partie de la connaissance d'un territoire, que de se rendre compte qu'il y a toujours un peu d'inertie avant qu'un projet n'aboutisse. Et c'est vrai que peu de gens adhèrent à... Je sais que moi, j'ai été toujours frappé devant la popularité un peu des rencontres de la parole, mais qui attire finalement avec un gros support publicitaire, je ne sais pas, à peu près, Christiane, tu es capable de me dire, mais à peu près 1 million de personnes chaque année, 1 000 à 1 200 personnes, sur une semaine, avec des compteurs qui sont quand même, je dois dire, la plupart du temps remarquables.
On ne parle pas des rencontres de
la
parole.
Non, on ne parle pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on fait le rapprochement entre le nombre de personnes, avec le support publicitaire qu'il y a, avec la qualité des prestataires qui interviennent dans la rencontre de la parole, et puis avec l'outil que représente la médiathèque derrière, ce réseau de bibliothèques, donc, qui sont quand même pourvoyeurs d'un certain nombre d'auditeurs potentiels, on se rend compte néanmoins que le public qui est intéressé par ce qui est passionné par cette écoute-là, je veux dire, il est quand même restreint.
Il est quand même restreint.
Et donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il nous a fallu quelques années pour accepter l'idée que ces rochers qui parlent soient consacrés qu'à une forme d'élite, en quelque sorte, qui soit capable d'apprécier ce petit bijou-là.
Alors, ces rochers qui parlent, ils chuchotent simplement à l'oreille de
À l'oreille de certains, voilà, à l'oreille de certains, et que l'on coucoune particulièrement.
Ah. Est-ce qu'une petite chanson de Barbara, ça volontiers. Irait bien? Là, on va voyager volontiers. Avec elle cette fois-ci. C'est voyage, non?
C'est voyage. C'est pas voyage, c'est voyage.
Ah, les voyages aux rivages lointains, aux rêves incertains, que c'est beau les voyages qui effacent au loin nos larmes et nos chagrins. Mon Dieu, ah, les voyages, comme vous fûtes sage de nous donner ces images. Car les voyages, c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait, que c'est beau les voyages. Et le monde nouveau qui s'ouvre à nos cerveaux nous fait voir autrement et nous chante comment la vie vaut bien le coup malgré tout. Ah, jeunes gens, sachez profiter de vos 20 ans. Le monde est là, ne craignez rien, il n'est pas méchant, il vous guidera. Ah, les voyages qui mûrissent nos cœurs, qui nous ouvre au bonheur, mais que c'est beau les voyages. Et lorsque l'on retourne chez soi, rien n'est comme autrefois, car nos yeux ont changé et nous sommes étonnés de voir comme nos soucis étaient simples et petits. Car les voyages
Eh bien, nous sommes presque à la fin de cette émission et de cette rencontre avec Daniel Gerasimenko, qui donc travaille à la Motte du Caire, à l'Office de tourisme et qui cumulant le sport, la nature, la culture, le devoir de mémoire, etc., nous a fait partager quelques petites choses assez sympathiques. Et moi, j'ai envie, pour terminer, de demander à Daniel quelque chose, un petit souvenir particulier qui nous emmènerait dans ces montagnes, mais dans le côté magique de ces montagnes aussi.
Mais alors, deux petites choses. D'abord, c'est vrai que là où nous habitons, c'est un petit village qui s'appelle Faucon du Caire. Et en fait, j'habite dans une bergerie isolée au-dessus de Faucon du Caire, en bordure de la vallée, de cette vallée du Grand Vallon. À tel point qu'un jour, consultant une carte géologique, je prends conscience que j'habite juste au-dessus d'une faille sismique. Alors je descends catastrophé, je vais voir un des vieux du village et je lui dis: Marceau, tu crois pas, je suis venu vivre dans une maison juste au bord d'une faille sismique. Il me dit: petit, te casse pas, on y met à plusieurs, on prend des pelles, des pioches et on leur rebouche ta faille. Alors ça, c'est un premier souvenir pour situer l'endroit. Et puis cet endroit, bien entendu, assez auspicieux pour les humains et pour les animaux. J'ai un petit souvenir qui me revient également, qui est assez savoureux. C'était lors de nos rencontres. En général, lorsque les rencontres de la parole se terminent, eh bien, les conteurs qui ont participé viennent passer une soirée à la montagne pour se reposer de leur semaine intensive. Là. Et puis, le lendemain, on va en studio pour enregistrer certains de leurs contes, certaines de leurs prestations. Et puis, ce soir-là, était venu, parmi les conteurs présents, il y avait Robert Sevenkroz. Robert Sevenkroz, c'est donc un Amérindien du Canada, qui était là avec sa femme, Joanne.
Joanne Pony.
Joanne Pony, hein, voilà. Donc, c'est un Indien Micmac et elle, c'est la nation Pony. Et donc, ils étaient venus. Et donc, pendant qu'on courait de droite et de gauche avec ma femme pour leur aménager le repas le soir, là, on était bien en plein air puisqu'il faisait effectivement très chaud, je fais un petit saut en saut de puce en arrière. Dans l'après-midi, nous avions assisté à l'ouverture des rencontres de la parole. Ça se passait à, je ne me rappelle plus, ce petit village à côté du Chafaud. C'est Mézel, je pense.
Mézel, voilà, oui.
C'est Mézel. Il y avait eu l'ouverture à Mézel. Et il y avait eu une petite anecdote. C'est-à-dire que Robert Sevenkroz racontait une histoire d'un hibou. D'un hibou, en fait. Pour faire court, c'était un hibou qui se déguisait en jeune indienne, pour essayer de séduire une jeune indienne. Et en l'occurrence, donc, il s'y prenait de maintes et maintes façons, jusqu'à ce qu'il soit dévoilé à la fin. Mais ce qui était remarquable, c'est que pendant toute la durée de ce conte, qui a duré quelques minutes, un hibou, un petit duc, est venu se percher à l'intérieur de la salle des fêtes de Mézel et a chanté pendant toute la durée du conte en haut de cette salle, et ça résonnait terriblement. Ça, c'était une première note. Et puis, lorsqu'on s'est retrouvé à la fin des rencontres de la parole chez nous à Faucon du Caire, Alors, pendant qu'on s'affairait avec ma femme à servir les uns et les autres, on entendait, chose exceptionnelle, des hiboux grand-ducs, des moyens ducs, des petits ducs, des chouettes chevêches, des chevêtes hulos. Autant d'animaux de nuit, des rapaces nocturnes que nous avions l'habitude d'entendre, mais en général au loin, mais à plusieurs, parfois presque à un kilomètre de distance. Donc nous étions coutumiers du fait, mais toujours de très loin. Alors que là, nous les avions à 100 mètres. Mais comme nous étions affairés à aller servir l'un et servir l'autre, on n'a pas pu goûter pleinement ce spectacle auditif. Lorsque tout le monde est parti le lendemain, avec ma femme, on se dit, là, avec ce qu'on a entendu hier, avec tous ces animaux à proximité, cette fois, on va en profiter. On a installé nos deux fauteuils confortablement face à la haie qui accueillait la veille tous ces rapaces nocturnes de façon extraordinaire. Et on s'est dit, cette fois, on va écouter et goûter pleinement. Et en fait, on n'a rien entendu. Il n'y en a pas un qui est venu ce soir-là. Ils étaient tous partis avec les Indiens.
Merci, Daniel. Voyez, il se passe beaucoup de choses dans ce pays de la mode du Caire. Et bon, ben, on ne peut que vous inviter à aller écouter, à aller savourer, à aller crapahuter et rencontrer, les chouettes et les hiboux grand-ducs, à aller rencontrer Karine, Daniel, etc., à la mode. Merci beaucoup pour ce moment de partage et d'émotion aussi. Et puis peut-être à bientôt pour une maison de l'oralité.
Pourquoi pas.
Merci.
Merci Christiane. Bonsoir.
Bonsoir.